Il est 7h.
Breaking news in Bill Cosby to get out of prison today.
C'était l'une des premières condamnations emblématiques de l'ère MeToo aux États-Unis, mais elle vient d'être annulée. L'ancien acteur noir américain Bill Cosby a été libéré, on va en parler. Une étape supplémentaire vers la normalité depuis hier, plus de restrictions en intérieur, dans les bars et dans les restaurants. Plus de 400 morts désormais et des incendies qui menacent. Le Canada continue de suffoquer. On sera sur place dans un tout petit instant. Juste après ce journal, le journal du tour avec Marguerite Lefebvre et l'éclairage éco, Daniel Fortin.
Et je vous parle du visage décisif que Renault va prendre dans l'électrique.
Le regard international, c'est Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Chupin. Et puis, juste avant 7h30, on va retrouver Stéphane Bern pour son mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Vous avez un vasistas chez vous?
Oui.
Mais vasistas, qu'est-ce que c'est?
La réponse avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. En pleine libération de la parole, la décision avait fait figure de symbole. C'était en 2018, le comédien Bill Cosby, héros d'une série à son nom diffusée pendant près de 10 ans à la télé américaine, était condamné pour agression sexuelle. Mais 3 ans après, et alors que sa peine n'était pas totalement terminée, il a été libéré de prison.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est la Cour suprême de Pennsylvanie qui a décidé d'annuler le jugement et les peines infligées à l'acteur. Et cette nouvelle décision, elle est aussi lourde de symboles.
Oui, parce que la condamnation de Bill Cosby en 2018, elle est souvent considérée comme la première du mouvement MeToo, entre 3 et 10 ans de prison pour avoir drogué et violé Andrea Constant, une basketteuse qu'il avait invitée à son domicile en 2004. Plus de 60 femmes au total avaient accusé l'ancienne icône de la télévision américaine d'agression sexuelle, mais seule cette affaire impliquant Andrea Constant n'était pas prescrite. Hier, les juges de la Cour suprême de Pennsylvanie ont donc relevé un vice de procédure pour annuler cette condamnation. Dans un arrêt de 79 pages, il souligne un affront au principe d'équité. En fait, un procureur avait, dans un premier temps, expliqué à Bill Cosby qu'il ne craignait rien s'il témoignait au civil, ce qu'il avait fait. Mais c'est sur la base de ce témoignage que l'acteur a ensuite été condamné au pénal. Ses avocats se sont donc lancés dans une longue bataille juridique remportée hier. Âgé de 83 ans, Bill Cosby est immédiatement sorti de prison. Il a regagné son domicile dans la banlieue de Philadelphie. Devant les caméras, il est resté muet, levant simplement le bras et 2 doigts en signe de victoire. D'après la Cour suprême de Pennsylvanie, Bill Cosby ne pourra pas être rejugé pour les mêmes faits.
Alexis Guillet aux États-Unis pour Europe 1, où les réactions ont été nombreuses depuis cette décision. Nous avons du travail, a notamment commenté Rosanna Arquette, la comédienne qui avait accusé Harvey Weinstein de harcèlement sexuel. Les États-Unis où s'est éteint hier Donald Rumsfeld, l'homme de la guerre en Irak. Il a été le plus jeune, puis le plus vieux ministre de la Défense sous Ford, puis sous George W. Bush. Il avait 88 ans.
7h03 sur Europe 1. Ce sera notre Sésame pour voyager cet été en Europe. Le pass sanitaire entre en vigueur aujourd'hui.
Le dispositif permettra de prouver que vous êtes vacciné, guéri ou testé négatif au Covid-19. Premières expériences de voyageurs tout à l'heure dans le journal de 8h.
Aujourd'hui aussi, protocole sanitaire assoupli dans les cantines d'entreprise au lendemain de la levée des jauges en intérieur qui ont été levées notamment dans les bars et les restaurants.
Où les professionnels se réjouissent de pouvoir relancer totalement leur activité. Reportage pour Europe 1 de Pierre Herbulot dans un établissement parisien.
Des casseroles de sauce beaucoup plus remplies et 2 fois plus de homards à préparer en cuisine.
Ben là, ici, on est en train de faire une rillette de homards avec des fines d'herbes et des agrumes.
Le chef libanais Alain Djeham mobilise ses troupes. Le monde d'avant est de retour.
Alors les garçons, là, à partir d'aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus de jauge. Il n'y a pas 2 couverts ou 4 couverts ou 6 couverts. Le restant, il est plein.
Dans ces 2 établissements parisiens, le restaurateur va faire son meilleur chiffre depuis 8 mois.
On va gagner presque 7 couverts sur 24, ça veut dire qu'on va gagner presque 30% d'activité. Et pour surtout mon bistrot, là je vais gagner presque 50%. Du coup, je suis très très soulagé.
En salle, un regain de convivialité avec à nouveau des grandes tablées de 10-12 personnes qui manquaient tant à Léa et Marina.
Très bonne nouvelle, ouais. Enfin. Les tables assises, c'était embêtant, là par exemple avec l'euro de foot, etc. C'était un peu pénible de devoir réserver tout le temps.
Moi je suis très festive, j'aime beaucoup aller au restaurant, sortir, c'est bien qu'on puisse reprendre notre vie d'avant.
Reste un détail qui détonne pour le chef Alain Djeham, fraîchement vacciné, le masque étouffant dans les chaleurs de la cuisine dont il aimerait enfin pouvoir se débarrasser.
Un reportage signé Pierre Herbulot pour Europe 1. Objectif Élysée, ou quand les appétits s'aiguisent à 10 mois de la présidentielle. Tribune aujourd'hui de 200 élus socialistes pour une candidature d'Anne Hidalgo. Yannick Jadot, de son côté, se lance dans la primaire écolo.
Et Emmanuel Macron, lui, entend rester en mouvement. Le chef de l'État, interrogé dans le magazine Elle, a bâti une stratégie offensive en vue de 2022, Louis Dragnel.
Oui, à entendre certains proches conseillers du chef de l'État, Emmanuel Macron a un plan très clair pour les 10 derniers mois de son mandat. Faire comme si son possible deuxième quinquennat commençait maintenant. Et donc lancer dans les prochains mois des réformes de début de mandat, celles qui sont les plus lourdes politiquement du jamais vu. Et c'est pour ça qu'on entend parler depuis quelques jours de la volonté présidentielle de réformer le système des retraites. Un projet de réforme typique d'un début de quinquennat. Autre chantier, s'attaquer à la question de la maîtrise de l'immigration. Un sujet qu'Emmanuel Macron souhaite porter avant et pendant la présidence française de l'Union européenne qui débute en janvier. Encore une fois, un projet de début de quinquennat. La liste n'est pas exhaustive, mais il faut bien voir que Emmanuel Macron a un objectif par cette stratégie transgressive et par les réformes choisies. Emmanuel Macron veut toucher les électeurs de droite. Il le sait, sans eux, il ne peut pas espérer faire un deuxième mandat.
Et au sujet de la réforme des retraites, dans les Échos, ce matin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, explique que la question n'est pas de savoir s'il y aura une réforme, mais quand. Si la reprise économique se confirme et que l'épidémie est maîtrisée, elle pourrait être lancée dès l'automne.
Cette réforme-là entre en vigueur aujourd'hui. Le congé paternité passe de 14 à 28 jours.
Enjeu d'égalité au travail, mais aussi à la maison, pour aider la maman et prendre le temps de la rencontre avec son enfant. Franck s'en réjouit.
Reprendre rapidement le travail, je pense que moralement c'est compliqué, physiquement aussi, donc avoir un peu plus de jours c'est mieux, pour prendre plus nos repères. Il faut s'occuper à 24 heures sur 24 de la petite. C'est fatigant, mais c'est que du bonheur.
Un bonheur qui se prépare. Alors que prévoit ce nouveau congé paternité et comment en disposer aussi ? Réponse avec Victor Porcher pour Europe 1.
Tous les papas des enfants qui naissent à partir d'aujourd'hui peuvent en profiter. Et sachez que si votre enfant est né un peu avant, mais que le terme de la grossesse était prévu en juillet, vous êtes aussi concerné. Sur ces 28 jours, une semaine est à prendre obligatoirement à partir de la naissance de l'enfant. Une semaine composée des 3 jours de congé naissance et des 4 premiers jours de votre congé paternité. Il vous restera alors 3 semaines. Et là, vous avez le choix. Soit vous les posez en un bloc, soit vous décidez de les répartir en deux fois. Dans les deux cas, vous avez jusqu'aux 6 mois de l'enfant pour profiter de ses congés. Et tous les salariés sont concernés, que vous soyez fonctionnaire, salarié du privé, indépendant ou même non salarié, comme les agriculteurs par exemple, vous avez droit à ce congé indemnisé par la Sécurité sociale.
Et ce congé paternité, il peut aller jusqu'à 35 jours pour une naissance multiple.
Et ne manquez pas ce témoignage, ce sera à 7h40 tout à l'heure. Il s'appelle Alexandre Marcel, c'est un militant du congé paternité, blogueur. Son blog, c'est Papa Plume. Alors, il raconte notamment sur ce blog sa déprime au moment de reprendre le boulot, il y a 2 ans, à la naissance de sa fille. Et sa joie, puisqu'il attend un petit garçon pour le mois d'août. Tiens, je vais lui poser la question des nouveaux papas. Lui qui dit dans Le Parisien, aujourd'hui en France ce matin, que c'est un défi d'élever un petit garçon en 2021. C'est lié au sujet, évidemment. On en parle à 7h40.
Et au-delà de ce nouveau congé paternité plus long, autre changement en ce 1er juillet, l'augmentation de 10% des tarifs réglementés du gaz, la baisse des primes pour l'achat de voitures électriques ou encore la mise en place d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie pour les professions libérales.
Notez aussi qu'aujourd'hui débutent 2 mouvements de grève, chez ADP, Aéroport de Paris et à la SNCF. Mobilisation pour des questions de rémunération. Elle pourrait entraîner quelques retards.
Après les fortes chaleurs, l'ouest du continent américain, désormais sous la menace des incendies. 9000 pompiers déployés en Californie aux États-Unis pour faire face à un feu qui a déjà détruit 7000 hectares. Des incendies aussi plus au nord, au Canada. Alexandre Lepoutre, vous êtes sur place pour Europe 1. D'ailleurs, le village de Lytton, on en a beaucoup parlé, c'est là que le record de 49 degrés 6 a été battu. Et bien, ce village est en train d'être évacué.
Oui, à cause d'un feu de forêt qui se déplace à toute vitesse. Le maire dit que le village est en feu. Il a ordonné il y a à peine quelques heures l'évacuation de la population et la situation évolue très vite. Ici, en Colombie-Britannique, dont les forêts recouvrent d'ailleurs les 2/3 du territoire, on compte pour l'instant une 40aine d'incendies toujours actifs, dont 6 qui sont considérés comme non maîtrisés. Alors pour ne pas aggraver la situation, la province a décidé d'interdire à la population de faire des feux de camp. Et comme l'explique Yann Boulanger, chercheur en écologie forestière à Ressources Naturelles Canada, Les prochains jours vont être compliqués.
Il va y avoir des risques d'orage dans les prochains jours qui risquent d'allumer d'autres incendies.
Et cette vague de chaleur est aussi meurtrière. Elle aurait fait au moins 486 morts en 5 jours, surtout des personnes âgées. Mais il faut prendre aussi ces chiffres avec précaution parce que tous les morts ne sont peut-être pas liés à la chaleur. Mais en tout cas, on a bien une mortalité 3 fois plus élevée que d'habitude. Et le bilan s'alourdit de jour en jour.
Alexandre Lepoutreau au Canada pour Europe 1. À Wimbledon, l'épopée d'Andy Murray, ancien numéro 1, désormais 118e mondial après une série de blessures. Il s'est qualifié hier pour le 3e tour, critiquant au passage le Premier ministre Boris Johnson. C'est vraiment une édition sous le signe du Covid. On avait entendu il y a quelques jours cette ovation
pour les soignants et puis les
pour
chercheurs.
Les soignants et les chercheurs qui ont permis le développement du vaccin à AstraZeneca. Et bien hier, Andy Murray a qualifié de pathétique l'augmentation de salaire promise par le Premier ministre britannique aux soignants, plus 1% accordé. Voilà,
c'est
pour
autre chose que l'hommage. Hein. Un hommage, une standing ovation, celle-là, c'est une prise de position politique d'Andy Murray.
Exactement. Et puis, côté résultat, côté français, Joe Wilfried Tsonga a été éliminé. Ce soir, on suivra Richard Gasquet opposé à Roger Federer.
Merci Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Un excellent réveil à toutes et à tous. Le journal du Tour à 7h11, c'est avec Marguerite Lefebvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et on va écouter pour commencer les félicitations d'un champion du monde.
Félicitations à lui, je pense qu'il a remis les pendules à l'heure de son côté et il est venu là pour gagner le Tour, donc c'est une bonne chose pour lui.
Vous aurez reconnu Julien Alaphilippe qui a félicité hier celui qui a frappé un immense coup dans ce Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur du Tour l'an dernier, souvenez-vous, et qui a remporté hier le contre-la-montre à Laval, qui a fait le trou avec tous les favoris du classement général. Alors, Pogacar a marqué les esprits, mais il n'a pas encore le maillot jaune. Il est pour l'instant deuxième derrière Mathieu Van Der Poel. Julien Alaphilippe, que l'on entendait à l'instant, est quatrième. Et Pierre Latour, autre Français, s'en sort très bien. Il occupe la sixième place.
Ça va bien. Après, il y a toujours plus fort, mais les jambes sont quand même pas mauvaises, donc ça fait du bien de retrouver un niveau correct. Déjà, les jambes sont bonnes pour l'instant sur le parcours vallonné ou plat, donc c'est déjà de bon augure.
L'étape du jour, Marguerite, c'est une étape pour sprinter.
Oui, une étape qui va reposer entre guillemets une bonne partie du peloton après ce début de Tour de France chaotique. Aujourd'hui, il n'y aura pas de difficulté entre Tours et Châteauroux. Le peloton va pouvoir souffler, hormis bien sûr les sprinteurs qui eux ont coché cette étape. Et c'est le cas du Français Nasser Bouhanni. Il a déjà terminé 3e et 2e sur ce Tour. Il espère aujourd'hui transformer l'essai.
Châteauroux, voilà, encore une autre opportunité. Il faudra la saisir. J'espère trouver l'ouverture dès demain. Il y aura une grosse lutte. Il y a un énorme niveau de sprinter ici et en tout cas je donnerai le maximum pour essayer de l'emporter.
Arrivée promise donc au sprinter cet après-midi au terme d'une étape courte, hein, 144 km seulement, départ de Tours à 13h55.
Merci beaucoup Marguerite Lefebvre, c'était le journal du Tour et on va reparler de Tadej Pogacar dans l'édito sport de Virginie Fulpin, c'est à 7h20. Très bon réveil à tous, 7h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Le monde qui change sous nos yeux aujourd'hui avec l'allongement du congé paternité doublé. Hein. Les papas pourront profiter de leur nouvel enfant mais aussi aider à la maison pendant près d'un mois. Véritable avancée ou simple mise à jour? Je pose la question à Alexandre Marcel, militant du congé paternité. Déjà papa lui-même, il attend un bébé pour le mois d'août. Il sera dans ce studio pour en parler à 7h40. Le tête-à-tête Europe Matin. Mais d'abord, l'éclairage éco avec Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. Bonjour Daniel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Renault et la voiture thermique, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Dans 10 ans, le groupe produira l'essentiel de sa gamme en version électrique. C'est ce qu'annonce son patron, Luca Di Meo, dans votre journal ce matin.
Oui, et il fixe un horizon 2030. Cette année-là, 90% de la gamme de Renault sera électrique. C'est 5 ans plus tôt que Volkswagen, mais ça n'est pas seulement un effet d'annonce. Derrière, il y a de gros projets industriels. Lundi dernier, souvenez-vous, Emmanuel Macron était à Douai pour inaugurer la future usine géante de batteries du groupe. Elle est prévue pour démarrer en 2024 avec 2500 emplois à la clé. Et on l'oublie, mais ça fait déjà 10 ans que Renault investit dans l'électrique. C'était l'un des programmes phares défendus à l'époque par Carlos Ghosn. Et Luca Di Meo reconnaît que même si des erreurs ont été faites, les bases technologiques posées lui ont beaucoup servi et beaucoup d'investissements ont déjà été faits.
Avec 8 milliards de pertes l'an dernier, est-ce que le groupe a les moyens de réaliser cette transformation?
Alors en réalité, c'est une question de vie ou de de mort pour lui. Il n'a pas le choix s'il veut rester dans la course mondiale. La fin des voitures thermiques en Occident, c'est pour bientôt. C'est la loi qui l'imposera. Tous les grands constructeurs vont dans le même sens. Et il n'est pas sûr que le grand public réalise aujourd'hui à quel point l'automobile vit un tournant majeur. Donc, c'est vrai, la facture sera lourde pour Renault. 10 milliards d'euros seront investis dans l'électrification au cours des 5 prochaines années. Mais encore une fois, le groupe ne part pas de rien. Il a engagé de nombreuses économies sur son outil de production et il s'appuiera sur quelques modèles emblématiques pour essayer de séduire le grand public.
Alors justement, quels seront les modèles vedettes ?
Alors pour les nostalgiques, Renault va ressortir de la naphtaline quelques voitures mythiques comme la Renault 5 et même la 4L. Elles sortiront en version électrique. C'est une stratégie déjà éprouvée dans l'automobile. Elle porte même un nom, le rétro-futurisme. Alors ça, c'est pour appâter le chaland. Mais le gros morceau sera présenté début octobre au Salon de Munich. Ce sera la Mégane électrique. Là, on est au cœur du réacteur puisque c'est une famille de véhicules centrale pour le groupe. Celle qui fait de gros volumes de ventes. On peut dire que l'heure de vérité sonnera à ce moment-là pour Renault.
Oui, finalement, on a vu Renault arriver avec des modèles comme la Zoé. Aujourd'hui, c'est les modèles classiques de Renault qui deviennent électriques.
Oh,
elle est là, finalement, la révolution.
Et ils seront produits moins cher que la Zoé.
Et vous disiez la fin du véhicule thermique en Occident. Je me souviens aussi d'un éclairage éco précédent où on parlait de ces marques chinoises qui arrivent, les Chinois qui arrivent en force sur le marché du véhicule électrique.
Alors, on les annonce très souvent. On attend quand même de voir les premiers
modèles.
Vous ne
l'avez pas encore conduite, quoi. on veut essayer les voitures. Merci, Daniel Fortin. C'était l'éclairage éco. Il est 7h16 sur Europe 1, transition toute trouvée avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Puisqu'on va parler de la Chine ce matin, le 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Officiellement, c'est aujourd'hui et vous dites la Chine s'est réveillée, arrêtons de trembler.
Oui, au volant ou ailleurs, il ne faut pas trembler. L'étranger ne souffle pas les 100 bougies du PC chinois, il n'est pas invité à la fête. C'est entre eux que les Chinois célèbrent leur maître tout-puissant. Et puis surtout, le PC chinois, la Chine elle-même, coupe le souffle à tous ceux qui l'observent. Elle est spectaculaire hein, au plan technologique, dans l'intelligence artificielle ou la maîtrise spatiale. Et il fallait voir hier les 3 cosmonautes, tous membres du parti, brandir depuis l'espace la faucille et le marteau. La Chine renforce sans cesse ses capacités militaires au plan politique. L'écrasement des Tibétains, des Ouïghours, la reprise en main de Hong Kong préfigure le sort réservé à Taïwan. Et dans le reste du monde, eh bien, sur le bord des routes de la soie, Pékin traite les pays endettés comme le font à peu près les usuriers implacables dans les feuilletons édifiants de la télé chinoise. Bref, les Américains sonnent le tocsin, on le comprend. Les alliés sont priés de serrer les rangs pour endiguer ce nationalisme belliqueux.
Il y a de bonnes raisons d'avoir peur ?
C'est en politique intérieure que le parti a donné sa pleine mesure. Depuis un siècle, épuration, répression, au total entre 40 et 70 millions de morts. À côté, Staline était un artisan. Selon le camarade Xi Jinping, le parti a écrit un chapitre splendide du progrès de l'humanité et il interdit le nihilisme historique. De même, il est impossible d'envisager un accident de laboratoire à Wuhan. Seule vérité du Covid, c'est que l'épidémie a démontré la supériorité du parti sur les démocraties libérales, inefficaces et en déclin. Bref, le mensonge, la manipulation, encore et toujours, c'est la faiblesse congénitale du parti. L'Union soviétique avait le même talon d'Achille et c'est comme ça qu'elle a perdu la guerre froide. Le PC chinois, avec ses 95 millions d'adhérents, est une sorte de secte. Elle implosera tôt ou tard au contact de la réalité. En URSS, la catastrophe de Tchernobyl a servi de détonateur. Eh bien, en Chine, l'épidémie de Covid a représenté la même menace, une menace du même type en tout cas.
Le 100e anniversaire offre à Xi Jinping un triomphe.
Il parade. Il est en campagne pour un troisième quinquennat en 2022, mais il doit sans cesse désarmer les clans qui refusent les confrontations avec les États-Unis, ceux qui redoutent les conséquences des tensions avec le Japon, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, etc., etc. La Chine fait peur, mais ainsi, elle a déjà perdu la bataille du soft power.
Vincent Hervouet, le regard international. Merci Vincent, il est 7h18 sur Europe 1. Très bon réveil à tous, dans un tout petit instant, l'édito sport, Virginie Fulpin.
Qu'est-ce qui est jaune et qui attend de se retrouver sur les épaules de Tadej Pogačar? Le Slovène a assommé le Tour de France hier et la victoire lui est presque promise. Pardon.
Et juste après, on dirait du Stéphane Bern qui nous rejoint dans un instant. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Après 5 jours de course, on connaît déjà le vainqueur du Tour de France, ou presque. Tadej Pogacar a frappé fort hier dans le contre-la-montre. Le Slovène, vainqueur de la Grande Boucle l'année dernière, n'a pas encore le maillot jaune, mais il est déjà bien parti pour l'emporter à Paris. Pour vous, Virginie, c'est difficile de se réjouir de ce coup de force?
Je vois pas le temps passer, moi. L'Euro, c'est fini. Voilà que le Tour aussi, à ce rythme-là. Demain, ce sera la rentrée scolaire. Si on laisse Tadej Pogacar se battre contre la montre à la fin, c'est lui qui gagne. En fait, ce Tour de France s'est limité à un Tour de Bretagne cette année. 4 jours pour rêver, voir Julien Alaphilippe s'échapper du peloton pour conquérir le maillot jaune et donner des couleurs à la France. Essuyer une petite larme quand Mathieu Van Der Poel lui a repris ce maillot en pensant à son grand-père, Raymond Poulidor. Et être ébahi par Marc Cavendish, qu'on ne pensait pas revoir sur la grande boucle et qui est venu y arracher le 31e sprint de sa carrière. Quelques jours de romantisme avant que Tadej Pogacar ne nous ramène brutalement sur terre avec ses gros sabots hier. Le Slovène n'a que 22 ans, autant dire qu'il n'a que faire de notre nostalgie et de nos états d'âme. Il est là pour appuyer sur la pédale et écraser la concurrence et il n'a pas fait dans le détail sur les routes de Mayenne, laissant tous ses adversaires sur le bord de la route. D'accord, il n'a pas encore le maillot jaune ce matin, Mathieu Van Der Poel l'a conservé pour 8 petites secondes, elles fondront comme neige au soleil dès que la route s'élèvera, c'est-à-dire dès ce week-end. Oui, Tadej Pogacar a sur le dos une pancarte de futur vainqueur, à peu près aussi discrète que la pancarte Omi Opi, vous savez, de la spectatrice qui a fait chuter le peloton samedi.
Alors ça tue le suspense, mais on va quand même pas lui reprocher d'être là pour gagner.
Le Slovène met un soin tout particulier à préparer ses contre-la-montre, ça fait partie de son boulot, bien sûr. Et s'il est plus sérieux et plus doué que les autres, normal que ça paie. Mais écraser la concurrence à ce point, on n'y peut rien, ça ne rappelle pas de bons souvenirs aux amateurs du Tour. Et quand vous voyez l'expression de dégoût sur le visage de son dauphin hier, Stefan Küng, ça en dit long sur l'impossibilité de se réjouir totalement d'une telle domination. Attention, hein, je ne dis pas que Pogacar s'est dopé, sûrement pas, rien ne me permet de dire ça, mais quand les meilleurs spécialistes du contre-la-montre roulent à 50 km/h de moyenne, comme hier, et que le Slovène les fait passer pour des cyclotouristes en sortie dominicale, ça laisse un petit goût amer dans la bouche. C'est peut-être injuste, mais ainsi va la vie de ceux qui dominent outrageusement le Tour. Ils doivent trimballer avec eux ces relents de suspicion. Ça doit être fatigant et insupportable, reconnaissons-le. Mais si Tadej Pogacar a un mental aussi fort que ses jambes, il va s'en remettre facilement.
Oui, je pense qu'on ne peut pas jouer contre ni au mental ni sur les jambes.
Je crois pas.
Merci Virginie Fulpin. C'était l'édito sport, il est 7h23 sur Europe 1. Et tous les matins, nous retrouvons Stéphane Bern avec son mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Quand je nous vois réunis ici ensemble pour l'avant-dernière fois de la saison dans ce grand studio mythique Jean-Luc Lagardère à Europe 1, je me dis une chose, mais il n'y a pas de Vasistas.
Mais c'est vrai, vous dites ça.
D'où vient ce mot Vasistas?
Alors, Vasistas, ça veut dire qu'est-ce que c'est en allemand? C'est ce qu'on pourrait dire à quelqu'un quand on ouvre une fenêtre, par exemple. Ne me dites pas que ça vient de l'allemand.
Non seulement, je vous le dis, mais en plus, je vous l'explique. En France, arrivant par l'Est, Vasistas fait effectivement partie des mots que l'on doit à l'allemand, comme bretzel, kitsch, hamster, aspirine, handball ou nouille. En 1830, paraît un livre, Les Annales d'hygiène publique et de médecine légale. On peut y lire, noir sur blanc, ce précieux conseil. Ouvrez les vasistas pour fournir la quantité d'air nécessaire à l'assainissement de la salle d'autopsie. On ne pense jamais assez à ça. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois qu'on voit écrit le mot vasistas. À l'origine, c'est une petite ouverture qui permet de ne pas ouvrir complètement une porte et de dire, si on est allemand, vasistas. Puis trahison, on a inventé le Judas. On a désigné alors comme vasistas les ouvertures faites dans les toitures. Mais pas de chance pour le mot vasistas. Un autre va vite le remplacer. C'est une marque déposée en 1942, un Velux. Le V pour ventilation et lux pour la lumière en latin. Et alors pire que tout, aujourd'hui en allemand, on ne dit pas vasistas, on dit Oberlicht. Tout se perd. Hein. En espagnol, c'est tragalus, ce qui veut dire littéralement apporte de la lumière. Voilà pour le vasistas, et concernant la fenêtre, je m'en remets à l'excellent Sylvain Tesson qui disait « Le bon usage de la fenêtre, c'est inviter la beauté à entrer et laisser l'inspiration sortir. » J'aurais pas dit mieux, je pense que j'aurais même pas su le dire.
De l'air et de la lumière, à 16h, historiquement vôtre.
Absolument, aujourd'hui, on réunit Isadora Duncan, la danseuse aux pieds nus et aux voiles vaporeux, la diva capverdienne Césaria, la diva aux pieds nus, et l'inclassable Camille qui a pris notre douleur. Leur point commun, elles sont toujours pieds nus dans la vie, mais surtout sur scène.
Eh bien, tout à l'heure, 16h, mon cher Stéphane Bern avec Mathieu Noël, c'est historiquement vôtre de 16h à 18h sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un tout petit instant, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo, bien sûr, et Sophie Echen pour un nouveau journal. À tout de suite. Laurent Cabrol est avec nous. Si je ne dis pas de bêtises et si je vous ai bien écouté cette semaine, mon cher Laurent, on entre dans la partie sympa de la semaine, là, non ?
Oui, aujourd'hui et demain. Et ce sera ensuite, malheureusement, le retour du mauvais temps. Alors, c'est un point d'interrogation tout de même. Samedi, dimanche, et certainement, ce sont deux mauvaises journées, il faut bien le dire. Mais à partir de lundi, on peut espérer. Alors, certains modèles, certains scénarios, je pense que nous aurons peut-être le retour du beau temps mercredi prochain. Pour l'instant, ça n'est pas encore sur nos plats de nos tablettes. Pourquoi je n'en parle pas à nos amis, les amis auditeurs, je ne leur dis pas le soleil est de retour dans quelques temps. Non, pour l'instant, on reste très prudent à ce sujet. Les températures ce matin ne sont pas très très chaudes, entre 13 et 16 degrés. Compte tenu de l'humidité qui règne, ce n'est pas très agréable. Les températures maximales, 19 à Lille, 20 degrés à Épinal, 21 à Quimper, 22 à Paris, 23 à Clermont, Rennes, Poitiers, Bordeaux, Limoges, Bourges, Nice. Si vous habitez ces villes, entre 24 et 26 cet après-midi, 27 à Lyon, 28 à Toulouse et 30 à Marseille. Bon, je ne vais pas dire qu'il va faire beau, je vais vous dire qu'il fera un beau temps nuageux. C'est une formule qui nous appartient et on est fiers de la proposer à tous ceux qui font de la météo parce que c'est une formule qui résume bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que le ciel ne sera pas limpide, il y aura des nuages, des éclaircies et de très courtes averses, mais ces courtes averses seront vraiment peu nombreuses, et donc ces courtes averses seront là avec nuages et éclaircies en majorité. Donc l'impression sera du beau temps, mais un beau temps avec des petits parasols au-dessus de votre tête.
Oui, et puis on a bien compris que ce week-end, c'était retour de la pluie, voire de l'orage, hein. C'est ça Laurent ?
Ah, demain, dès samedi, pardon.
Oui, dès samedi.
Dès samedi, c'est très mauvais, oui.
Bon, bah, profitez de ce jeudi, de ce vendredi. Merci beaucoup mon cher Laurent Cabrol, avec les restrictions qui sautent aussi, on en a parlé notamment dans les restaurants. Aujourd'hui, demain, vous avez entendu la météo. Très bon réveil à toutes et à tous, Sophie Etchen est avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
C'est un travail évidemment considérable et on a besoin de ces listes pour pouvoir repérer rapidement quels sont les patients concernés.
Les médecins sont impatients d'obtenir la liste de leurs patients non vaccinés pour les inciter à recevoir une dose. La CNIL, le gendarme des libertés, doit donner son feu vert dans la journée. Dans ce journal aussi, sans surprise, Yannick Jadot se lance dans la bataille de la présidentielle. Les nouvelles caméras piétons déployées à partir d'aujourd'hui aux forces de l'ordre. Et puis du changement sur vos factures de gaz, les tarifs augmentent de près de 10%.
Juste après ce journal, la touche âme, c'est le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec Alexandre Marcel, c'est l'auteur du blog Papa Plume, militant du congé paternité dont la durée est doublée à partir d'aujourd'hui. L'édito politique Nicolas Bétou.
Emmanuel Macron a décidé de ne pas remanier son gouvernement et il laisse passer une occasion de faire un bon coup politique.
Et puis enfin avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique. Dès la matinale, aujourd'hui Sonia Mabrouk reçoit le président du Sénat, Gérard Larcher. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La course contre la montre est lancée pour limiter la propagation du variant Delta du coronavirus et pour convaincre les Français non vaccinés de recevoir une dose. La moitié de la population n'a pas encore reçu d'injection, alors certains médecins souhaitent avoir accès à la liste de ces patients pour les inciter à se faire vacciner. Et Anne Le Gall, le ministre de la Santé, semble y être favorable.
Oui, et cette hypothèse est actuellement étudiée par la Commission nationale informatique et liberté, même si concrètement cette information est loin d'être confidentielle, explique le docteur Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, car les médecins peuvent déjà savoir si leur patient a été vacciné ou non.
Dès lors qu'on connaît le numéro de sécurité sociale de notre patient, on peut aller sur le site Vaccin Covid et savoir si ce patient a été vacciné. Le problème, c'est que ça, c'est pour un patient donné. Si on veut avoir la totalité de notre patientèle, c'est un travail évidemment considérable et on a besoin de ces listes pour pouvoir repérer rapidement quels sont les patients concernés.
L'accès direct à la liste des patients vaccinés leur permettrait donc de gagner du temps pour contacter et échanger avec ceux qui n'ont pas encore reçu leur première dose. Cette demande de simplification informatique n'est pas nouvelle car en réalité, cela fait plusieurs années que les médecins la réclament pour savoir par exemple plus facilement qui a réalisé les examens de dépistage généralisé du cancer ou qui est vacciné contre la grippe. Mais sans succès pour l'instant, si cette nouvelle possibilité était offerte pour la vaccination anti-Covid, ce serait une première.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Et puis concernant les tests de dépistage, ils seront finalement payants pour les touristes étrangers qui viennent en France à partir du 7 juillet prochain. 49€ pour un PCR, 29 pour un antigénique. Une question de réciprocité selon le gouvernement, les tests étant payants dans la plupart des autres pays.
La politique à présent. Et après le maire de Grenoble, Éric Piolle, un autre écologiste se lance. C'est au tour de Yannick Jadot d'officialiser sa candidature à la présidentielle de 2022.
L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts l'a annoncé hier soir aux 20h de TF1 et il confirme qu'il participera à la primaire des écologistes à la rentrée.
Je suis candidat à l'élection présidentielle.
parce que face au dérèglement climatique, face aux injustices sociales, on ne peut plus tergiverser, on ne peut plus reporter à demain les décisions qu'il faut prendre aujourd'hui. Alors je veux mettre l'écologie au cœur du pouvoir, au cœur d'un grand projet de société.
Le maire de Grenoble, écologiste lui aussi, Éric Piolle, a déclaré aujourd'hui sa candidature à la primaire écologiste pour la présidentielle de 2022. Est-ce que vous aussi, vous allez passer par cette primaire ?
Bien sûr, j'ai toujours été fidèle, loyal à ma famille politique. C'est un mode de désignation transparent. C'est ma famille et moi, je veux construire une grande équipe de France de l'écologie qui gagnera l'élection présidentielle.
Yannick Jadot qui affrontera donc Éric Piolle, mais aussi Sandrine Rousseau, la numéro 2 des Verts, à la primaire prévue fin septembre. Et côté socialiste, 200 élus se mobilisent pour Anne Hidalgo. Ils co-signent une tribune de soutien à la maire de Paris pour l'inciter à annoncer sa candidature.
Emmanuel Macron les avait promises il y a près d'un an. Les nouvelles caméras piétons vont être déployées à partir d'aujourd'hui. 30 000 policiers et gendarmes vont en bénéficier.
Et plus légères et avec une meilleure autonomie que les précédentes, ces nouvelles caméras doivent permettre d'apaiser des situations potentiellement tendus lors d'interventions. Leur mode d'emploi avec Dominique Ledournaire, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police.
Ce sont des petits boîtiers qui seront portés sur le torse de l'agent par déclenchement à la charge de l'agent dans le cas d'une action de police, de façon à ce que la caméra puisse filmer l'ensemble de l'action. Dans le cas où un équipage est doté de plusieurs caméras, le déclenchement d'une caméra déclenche les autres, ce qui fait qu'on aura une périphérie complète de l'action. Il n'y a aucune modification possible de la vidéo prise par la caméra. C'est clair que nos collègues en veulent, afin de défendre au mieux les intérêts de nos collègues, mais aussi des citoyens. Ça fait partie aussi des intérêts de tous.
Des propos recueillis par Gladys Laffitte. Chaque agent sera équipé de cette caméra d'ici la fin de l'année prochaine. Elle avait provoqué une énorme chute collective sur la première étape du Tour de France. La spectatrice qui brandissait sa pancarte au milieu de la route a finalement été retrouvée après 4 jours de recherches intenses. Elle vient de passer la nuit en garde à vue. L'heure de vérité aujourd'hui au procès en appel de Willy Bardon pour le viol et le meurtre d'Élodie Kulik en 2002. Le verdict est attendu dans la journée. L'accusation a requis 30 ans de réclusion criminelle. Ses avocats plaident, eux, pour son acquittement.
Et puis alors, pas mal de changements en ce 1er juillet. On vous parlait ce matin de l'entrée en vigueur du pass sanitaire sur le sol européen, de l'allongement du congé paternité, ça on va y revenir avec mon invité dans le tête-à-tête Europe Matin. Du changement aussi, bon, c'est moins glorieux, sur vos factures de gaz.
Les prix augmentent de près de 10%. Alors, pourquoi cette hausse et qui est concerné? Les explications de Maud Descamps.
Ce sont 10 700 000 abonnés au tarif réglementé qui vont voir leur facture augmenter ce mois-ci. Des abonnés qui déboursent en moyenne chaque année 1 200 euros pour se chauffer au gaz. Pour faire baisser la facture, il existe par exemple la solution de l'achat groupé. Les consommateurs se réunissent et négocient un tarif avec un fournisseur. Certaines associations de consommateurs lancent régulièrement ce type de campagne. Cette forte hausse des tarifs s'explique principalement par la montée des prix du gaz sur les marchés mondiaux. Il faut remonter à 2008 pour avoir des cours aussi élevés. Et puis, autre raison, le coût croissant des certificats d'économie d'énergie que les fournisseurs français sont tenus de financer pour atteindre des objectifs en matière de sobriété énergétique, des seuils fixés par le gouvernement. Il faut néanmoins noter que cette hausse de 10% intervient après plusieurs mois de baisse des prix du gaz tout au long de la crise Covid.
Maude Descamps du service économie d'Europe 1. Et puis aux États-Unis, le dernier bilan fait état de 18 morts, dont 2 enfants, près d'une semaine après l'effondrement d'un immeuble en Floride. Joe Biden et son épouse sont attendus sur place aujourd'hui.
Merci beaucoup Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Messieurs, combien de temps vous êtes-vous absentés du travail à la naissance de vos enfants? Clairement, il y a eu un changement sur cette question en une voire deux générations. On va parler du congé paternité qui passe aujourd'hui à près d'un mois. Il est doublé, quelques cheveux blancs pour les DRH et aux patrons de PME aussi, hein, mais une véritable aspiration dans ce monde qui change. Alexandre Marcel attend son deuxième enfant pour le mois d'août. Il va en bénéficier, c'est un militant du congé paternité. On va écouter son témoignage dans un instant. Mais d'abord, la touchable avec Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, à la veille des vacances, je fais la part belle à l'information avec un grand i, avec un record qui a été battu.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9.
Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de La Touche Âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, à la veille des vacances, je ne vous cache pas que j'ai la pression concernant le contenu de cette chronique. Ce matin, j'avais envie de frapper fort avec une info feel good, mais qui envoie, histoire de marquer le coup. Après longue réflexion, ce matin, 7h39, j'ai donc décidé de vous parler du burkini. Allez, c'est parti. Alors, avant d'aborder les enjeux, que je vous laisse cette question, petit rappel des faits, c'est important. Mais non, je plaisante. Vous y avez cru, hein, oui. Naïf que vous êtes. Non, le burkini, c'est un peu le pantacourt du débat de société, quoi. Personne n'en parle le reste de l'année, tout le monde oublie, et juste avant l'été, alors qu'on s'y attendait plus, paf, ça revient, et on se le prend en pleine tronche avec des sondages et des débats sur les chaînes info. Ceci dit, en contexte de pandémie, reparler du burkini, c'est un signal positif. Ça veut dire qu'on est en train de sortir de la crise sanitaire. Ouais. Si on a du temps à perdre avec ce débat, c'est que ça va mieux. Hein, non, on revient au basique, quoi. Il fait 50 degrés au Canada, il y a le variant Delta qui nous fait une belle montée, mais nous, on est là à se mettre dessus à propos du burkini et des danses traditionnelles dans les mariages civils. C'est un petit côté monde d'avant, c'est sympa. Pas de burkini ce matin, mais cette information déroutante. Amis auditeurs, si vous êtes en train de faire quelque chose, arrêtez tout. Prenez deux secondes pour vous concentrer. Attention, on y va. Un Britannique empile des M&M's. Et bah, un record du monde. J'avais prévenu. De l'info. Je suis d'ailleurs très surpris que personne n'ait relayé cette news dans la matinale. Heureusement que je suis là pour en parler. Alors, cet article soulève beaucoup de questions, à commencer par celle-ci. Pourquoi ? Qui se lève un matin en se disant « Tiens, si j'essayais d'empiler ces M&M's ?» Alors, précision, ceux sans cacahuètes, hein, les plats. Eh bien, c'est Will Cutbill qui s'est dit ça. Il a expliqué à CNN, oui, CNN, que c'est l'ennui du confinement qui l'a poussé à faire ça.
Ah oui.
Sans déconner. Ouais, l'ennui tout court, hein, aussi, ça marche. Alors, attention, c'est très sérieux, puisque le record a été homologué par le Guinness Book. Jusqu'ici, il était détenu par un Italien et un Australien, car d'autres personnes avaient tenté le coup avant. Mais c'est ce Britannique qui a battu le record. Il a détaillé les coulisses de son exploit, c'est fascinant, témoignage très fort. Au début, je n'en mettais pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, allez, faut que je réussisse. Je me suis donc installé, bien décidé à y arriver. Il lui a fallu des heures.
Bien les mauvaises douleurs.
C'est vraiment ça. Ma passion. Plusieurs essais avant d'y parvenir. Ce record m'a pris énormément de temps. J'étais totalement excité quand j'y suis arrivé. T'imagine le truc, quelle époque, on en vient à être heureux d'avoir réussi à empiler des M&M's. Et le champion envoie un message d'espoir à tous. Si vous vous accrochez, vous trouverez un moyen d'y arriver. Alors je sens que vous êtes fébrile, vous vous dites qu'il manque une info dans ce papier passionnant. Vous vous demandez, mais combien diable a-t-il empilé de M&M's pour battre un record ? 5.
Non.
5 M&M's empilés. La plus haute.
Pas plus ?
Non. La plus haute tour du monde, selon le Guinness Book.
Ah, mais je vais être obligé d'essayer. Là,
ah bah oui. D'après le jeune homme qui était très troublé par ce record, je le cite. Quand je leur ai dit qu'il y en avait 5, ils étaient choqués. Oui, allô, le Guinness, je vous appelle parce que j'ai réussi à faire tenir des M&M's en équilibre. Combien ? 5. Quoi ? 5 ? Mais c'est incroyable ! Ah, je suis choqué. Bon, on rigole, mais c'est très compliqué à faire. Donc, j'allais vous le proposer. On peut tester demain. Hein. Ce sera le dernier jour. Autant s'amuser. Moi, à l'école, le dernier jour, on ramenait un Monopoly ou un Dr Maboul. On peut bien essayer d'empiler des M&M's. Non ? Allez, je vous prépare tout ça. À demain, Mathieu.
Il va falloir qu'on aille faire quelques courses maintenant.
Mais j'y vais tout de suite.
Bah, des M&M's, absolument. Il doit y avoir une machine dans l'immeuble.
Sans cacahuètes.
Sinon, ça marche pas, effectivement. Sinon, c'est pas le même record, tout simplement.
Évidemment.
Merci, Bertrand Chameroy.
Plaisir.
La précision de l'information, c'est La Touche Âme tous les matins à 7h40. On vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Culture Média. Il est 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Le congé paternité à la une ce matin. À partir d'aujourd'hui, un jeune papa peut prendre 28 jours à partir de la naissance de son enfant. C'était 14 jusqu'à présent. Développement de l'enfant, équilibre des tâches domestiques, bien-être du papa aussi. Je reçois un militant de ce congé paternité. Il s'appelle Alexandre Marcel. C'est l'auteur du blog Papa Plume. Et il attend un petit garçon pour le mois d'août.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Alexandre Marcel.
Bonjour Mathieu.
Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce congé paternité, mais d'abord vous qui le défendez, vous qui utilisiez, je me souviens, ce hashtag un mois minimum, on y est non ? Ce matin il y a quoi ? Un goût de victoire ? C'est une véritable avancée ?
Ouais, c'est une belle avancée. En effet, nous l'année dernière avec notre collectif de papas, on avait demandé un mois minimum. On a eu 28 jours. Donc, notre petite blague, c'est de dire qu'on nous a donné le mois de février.
Oui, ça marche.
Ça marche. Non, c'est vraiment une bonne avancée. Il faut pas cracher sur la soupe. Maintenant, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Mais voilà, déjà, soyons satisfaits de cette avancée.
La commission des 1000 premiers jours de l'enfant, présidée par le psychiatre Boris Cyrulnik et la thérapeute Isabelle Filioza, préconisait 9 semaines. On est à mi-chemin seulement des 9 semaines. On est très loin de ce que font les Nordiques, mais aussi des Latins comme des Espagnols ou Portugais. Vous pourriez être déçu ?
Je ne suis pas déçu parce que c'est ce qu'on avait demandé et de toute façon, dans telle avancée, il faut généralement, on avance aussi par petits pas. Donc, en effet, par rapport aux pays nordiques, par rapport à l'Espagne qui sont passés à 16 semaines et puis par rapport à la recommandation de la commission des 1000 premiers jours, donc, qui en effet recommandait 9 semaines, on n'y est pas encore et on peut aller plus loin. Mais le congé paternité n'avait pas été allongé depuis sa création, depuis 2001. Donc soyons déjà satisfaits de cette progression et avec l'objectif d'aller plus loin.
Oui, il ne date que de 2001, il faut le rappeler en France. À noter, alors que ce n'est pas rien, ce caractère obligatoire pour 7 jours sur les 28 avec des amendes si ce n'est pas respecté. Faut forcer un petit peu la main, c'est pas encore naturel.
C'est pas encore naturel. Moi, je commence déjà à discuter avec des papas de ma communauté et même des amis qui s'apprêtent à prendre leur congé paternité et je sens déjà poindre des réticences au sein des entreprises, malheureusement. Alors pas dans la mienne, qui est vraiment très respectueuse, et pour le coup, je sais que moi j'attends un petit garçon pour le mois d'août et j'aurai aucun souci à poser mes 28 jours, mais je me sens chanceux, et en fait ça devrait pas être une chance, ça devrait être une évidence. Et donc moi je lance une sorte d'appel à toutes les entreprises, les managers, les directions des ressources humaines. C'est un vrai progrès, c'est une avancée sociale fondamentale, c'est une avancée également pour le bien-être du bébé qu'on ne met pas souvent au centre de l'équation alors que pourtant il l'est. Donc voilà, il faut autoriser les papas à prendre leurs 28 jours. Il faut même les encourager à les prendre. C'est trop important pour eux, pour la maman, c'est trop important pour la société d'aujourd'hui.
Pour la société. Oui, on a changé. Enfin, il faut être très clair. Il y a une interview de vous, une interview croisée dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Portrait croisé avec votre papa. Vous avez 34 ans, il en a 64. Il y a clairement eu un changement de mentalité en quelques années. Là, les papas n'ont plus les mêmes aspirations.
Non, bien sûr. Alors pourtant, moi, mon papa a été très investi, mais en effet, d'un point de vue sociétal, c'était pas vu du tout de la même manière. Aujourd'hui, la grande majorité des papas ont envie de s'investir. Il faut leur en donner les moyens et ce congé paternité est un levier. Et c'est un levier pour lutter contre les inégalités hommes-femmes à la maison. Encore 70% des tâches domestiques et familiales sont encore occupées par les hommes. Et puis sur la sphère professionnelle, aujourd'hui, la parentalité est un vecteur d'inégalité au travail.
C'est une avancée, vous l'avez dit, pour les mamans. D'abord à la maison, effectivement, le partage des tâches domestiques au moment de la naissance, notamment, surtout s'il y a des enfants qui sont déjà là, qui sont plus grands. Et dans la question égalité professionnelle, ça c'est essentiel. Si les femmes sont aujourd'hui lésées, c'est parce qu'elles sont absentes à la naissance. Si les hommes l'étaient aussi, il n'y aurait plus de raison, on le comprend bien. Pour les papas d'abord, il y a l'idée de faire connaissance avec le nouvel arrivant, créer du lien, s'investir. Vous avez déjà une fille et vous avez raconté votre énorme, immense frustration au moment de sa naissance.
Oui, exactement. Je l'ai raconté à la fois dans une lettre ouverte que j'ai écrite il y a à peu près un an et demi et qui a été en fait le début de mon engagement pour l'allongement du congé paternité. Et puis je le raconte dans mon livre aussi. Reprendre le travail au bout de 10 jours ou 2 semaines, moi ça m'a paru insensé en fait. Je me sentais pas à ma place. J'avais envie de rester auprès de ma femme et de ma fille parce qu'elles avaient besoin de moi. Ma fille avait besoin de moi parce qu'elle avait besoin d'apprendre à me connaître. Moi j'avais besoin d'apprendre à la connaître aussi. Puis il y a tout à découvrir quand on devient papa. Et puis pour ma femme, enfin je suis désolé, mais c'est pas à la maman de tout assumer suite à l'accouchement. D'autant plus qu'elle a accouché, qu'elle a subi un effort physique qui est énorme. Donc c'est hyper important que le papa soit là et juste en fait qu'il aide pas la maman, qu'il prenne sa part. Tout simplement.
Alors, le vrai progrès après cette avancée sur le congé paternité, ce serait quoi ? Le congé parental ? Parce qu'on sait très bien qu'au bout, il y a ces 28 jours, c'est très bien, mais la rémunération du temps qu'on passe à la maison, pour l'instant, il est là, le frein, il est économique.
Pour le congé parental, exactement. D'ailleurs, il est pris à 97% par les femmes aujourd'hui. Parce que il y a le facteur
quand il est pris majoritairement par des femmes,
il y a 97% par les femmes parce qu'il y a une sorte de biais culturel historiquement, c'est la mère qui s'occupe de l'enfant, donc voilà.
Et oui, puis
il y a
le facteur c'est aussi parce que c'est elle qui gagne le moins dans le couple aujourd'hui,
donc elle met sa carrière entre parenthèses, donc elle gagne encore moins et en fait c'est un cercle vicieux.
Bon, alors après il y a plusieurs freins. Il y a d'abord une forme de pression professionnelle et ça c'est pas rien, ça peut être celle des managers qui peuvent mettre la pression sur le futur papa, mais celle des collègues aussi, entre collègues, c'est pas encore une évidence, c'est pas encore naturel. Les papas sont pas unanimes là-dessus.
Non, je pense que ça varie beaucoup selon les sociétés. Mais en effet, moi j'ai beaucoup de papas qui me partagent des témoignages et qui m'expliquent que s'ils prennent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou qu'ils s'absentent pour un congé parental, s'occuper de leurs enfants, eh ben ils sont là, ils sont victimes de moqueries, ils sont victimes de c'est pas à toi de faire ça. Et alors ils en souffrent et les mamans en souffrent également parce qu'on va leur dire ah c'est ton mari qui s'occupe de tes enfants donc t'es pas une bonne mère. En fait, ça touche tout le monde, ces histoires-là de virilité.
Bon, alors là, il y a les enjeux. Vous avez raison, virilité, le patriarcat, évidemment, on est quand même aussi sur quelque chose de nouveau. Il faut comprendre que les choses bougent parfois peut-être un peu lentement. Il y a ces questions sociétales, sociales, mais peut-être soulignons l'enjeu de santé publique, parce que vous l'avez dit, on aurait dû commencer par là d'ailleurs. C'est une immense avancée pour les bébés eux-mêmes, le développement de l'enfant, le développement du lien parent-enfant, la qualité des relations entre les parents.
Exactement. Il y a plein de choses à dire là-dessus. La première, c'est peut-être que, en effet, ça va permettre le bon développement des liens d'attachement entre le bébé et ses parents, donc la qualité de son éveil. Et puis une autre chose aussi, c'est que si on laisse la maman toute seule à la maison après la naissance, elle va être fatiguée, elle va être stressée, elle va transmettre ce stress à son bébé, parce que les bébés, c'est des éponges. Le bébé va sécréter du cortisol, et le cortisol, ça crée des maladies auto-immunes et ça détruit des neurones dans le cortex préfrontal.
Faut lire ce que dit Boris Cyrulnik sur cette question-là, bien sûr.
Moi, je ne suis pas scientifique, mais je m'intéresse à ces questions. Et donc, évidemment, en fait, d'un point de vue scientifique, les neurosciences, qui sont un domaine très récent, nous montrent à quel point la place du papa est importante lors des premiers jours et des premières semaines.
Il faut au moins se poser la question. Alors, dans la presse ce matin, vous lirez aussi, et il faut les lire, les témoignages d'indépendants, de patrons de TPE-PME, d'artisans, d'agriculteurs. C'est pas forcément évident encore de mettre tout ça en place, avec la question financière. Bien sûr. C'est un garçon que vous attendez pour le mois d'août, et je le souligne parce que vous dites dans Le Parisien ce matin que c'est un défi en 2021 d'éduquer un garçon, un petit garçon.
Oui.
Pourquoi ?
Bah, parce qu'on entend tellement d'histoires difficiles, d'histoires même parfois horribles, d'hommes qui dérapent, qui jouent les virils, qui sont dans la violence, qui sont dans l'exagération. Moi, je veux éduquer mon fils d'une manière bienveillante, lui apprendre le respect, et je pense que ça s'apprend tout ça par l'exemple. Donc moi, je vais lui donner l'exemple d'un papa qui est présent au maximum à la maison, qui n'hésite pas à mettre les mains dans les couches, à mettre les mains dans les toilettes, à faire le ménage, et donnons-leur le bon exemple, et ne cantonnons pas la mère à un rôle juste de mère. Elle est femme aussi, elle a envie peut-être d'avoir des aspirations professionnelles, et tout ça c'est lié de toute façon.
Alexandre Marcel, merci beaucoup.
Ben, je vous en prie.
Et ça, merci. C'est l'info aujourd'hui, le congé paternité qui est doublé. Vous êtes l'auteur du blog Papa Plume. Vous voyez père au foyer, Alexandre Marcel?
Écoutez, je pense que si un jour l'opportunité m'est donnée, j'aimerais bien tenter l'expérience.
Merci d'être venu témoigner ce matin, en tout cas.
Merci
sur Europe
1.
Il est 7h50, très bon réveil à toutes et à tous. L'édito politique, Nicolas Bétou, dans quelques secondes.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est un cas de figure assez classique dans la politique française. Au lendemain d'une élection, et surtout si elle est un échec pour le pouvoir, on parle de remaniement du gouvernement.
Oui, et cette fois, nous n'échapperons pas à la règle, même si Emmanuel Macron a un peu tué le suspense en déclarant lundi matin au magazine Elle qu'il n'y aurait pas de changement de Premier ministre dans les prochains mois, ce qui voulait probablement dire qu'il n'y en aurait pas dans les 10 prochains mois, bref, jusqu'à la présidentielle. Mais garder le même Premier ministre ne signifie pas qu'il n'y aurait aucun changement.
Avec des remplacements de ministres, par exemple, là aussi c'est assez classique, le départ débattu.
C'est habituel, vous avez raison, mais dans ce cas d'espèce, aucun ministre n'a perdu son mandat, aucun n'a été viré par les électeurs d'un siège qu'il tenait jusque-là. Nuance. Et puis, il faut bien reconnaître qu'un Éric Dupond-Moretti peut aujourd'hui plaider qu'il a été un peu envoyé au casse-pipe. Le sanctionner, lui et ses compagnons d'infortune, ce serait briser net toute velléité future d'un ministre d'aller affronter le vote des électeurs.
Alors, pas de chamboulement donc, mais peut-être des réglages ?
Oui, c'est ce qui se dit à l'Élysée. Pas de remaniement, plutôt un ajustement technique à la marge.
Et est-ce que ça a un sens ou une utilité politique ?
Absolument pas. Et c'est bien le point faible de ce quasi-immobilisme. On le sait, Emmanuel Macron veut donner une nouvelle impulsion à la dernière séquence de son quinquennat. On en a déjà parlé hier, Mathieu, des retraites, des réformes, du risque que ça représentait. Bon, il y aurait bien un geste politique fort, une façon de changer la donne. Ce serait de resserrer d'un coup ce gouvernement pléthorique pour avoir une équipe commando concentrée sur ce qu'il reste à faire en quelques mois. Il y a autour de Jean Castex 42 ministres et secrétaires d'État. Jamais il n'y en a eu autant depuis 25 ans. Un ministre me disait hier qu'il y en a plusieurs qu'il ne connaît même pas. Leur carnet de balles est indigent, leur talent inégal. Il n'y a plus de place pour aucun de leurs projets dans les 10 prochains mois. Alors ce ne serait pas une très grande perte de se séparer de la plupart des secrétaires d'État aux choux farcis, sauf que ça ne se produira pas.
Et pourquoi ?
Parce que Emmanuel Macron ne devrait pas prendre ce risque. S'aliéner tous ces gens-là à quelques mois des élections, ce serait inutile. Et puis politiquement, le chef de l'État est prisonnier du grand classicisme avec lequel il a composé et progressivement fait enfler son gouvernement. Il fallait servir tel allié de la majorité, avec des quotas à la clé, verrouiller tel parti ou sous-parti, telle tendance, tel courant, telle région. C'est comme ça depuis la Troisième République, et tout disrupteur qu'il soit, Emmanuel Macron n'a pas su s'en défaire. Bon, il faudra qu'il cherche autre chose pour personnifier son nouvel élan.
Votre édito politique, c'est tous les matins à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les jours, juste avant 8h, c'est Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Gérard Larcher, le président du Sénat et sénateur républicain des Yvelines. C'est Jean-Michel Apathy qui voulait lui dire un mot.
Et oui, bonjour mon cher collègue rouleur de verre Mathieu Béliard. Bonjour à Laurent Cabrol, bonjour à Nicolas Bétou. C'est important parce que c'est très bon le chou farci chez Nicolas.
J'allais le dire.
Et bonjour à Gérard Larcher qui vient nous voir ce matin pour nous expliquer comment les Républicains désigneront leur candidat pour 2022. Parce que c'est vrai qu'il va en falloir choisir entre 732 candidats potentiels. Xavier Bertrand, les Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, les Bruno Retailleau, les François Baroin, les Michel Barnier.
Michel Barnier, Barnier.
Barnier. Oui, c'est vrai que moi, maintenant, je me fais un peu plus l'effort, tellement ils sont nombreux à retenir les vrais noms. Il y en a un qui se lance tous les deux jours, il faut le savoir. C'est n'importe quoi. C'est Miss France, il y en a un par département. Et c'est pas Gérard Larcher qui doit désigner ce candidat, c'est quasiment Jean-Pierre Foucault. Je vais vous dire une chose. Hier, j'achetais des yaourts.
Hey.
Je m'attendais presque à ce que le caissier du Coxy Market se présente aussi. Ça n'arrête pas, tout ça pour faire quoi? Pour faire 11% et dégager dès le premier tour. Parce que mon cher Mathieu, soyons francs, parmi tous ces candidats, il n'y en a pas un qui fait rêver. Ils sont je ne sais pas combien, ils ne sont pas foutus d'en trouver un seul avec qui on aimerait ne serait-ce que boire une bière. Alors pour ce qui est de les élire chef d'État et d'appuyer sur le bouton rouge, franchement, ça ne nous dit rien.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité de la matinale, Gérard Larcher, à 8h15, la revue de presque à 8h45. Il est 7h57 sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Laurent Cabrol avec nous à 7h59.
Alors c'est une journée au beau temps nuageux, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les nuages seront là, mais le soleil, les éclaircies l'emporteront. Quelques nuances sur la Lorraine, l'Alsace et les Ardennes, la Picardie, le Nord, la Bourgogne et la Franche-Comté, les nuages seront parfois menaçants avec peut-être quelques bruines. Et puis des brumes et des brouillards sur les côtes atlantiques et les côtes de la Manche, et brumes et brouillards vont s'échapper vers 10 ou 11 heures. Partout les éclaircies vont apparaître et ce sera un vrai bonheur compte tenu de ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Beaucoup de soleil dans le sud-ouest, le Limousin, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Bref, c'est une journée sympa avec des températures de 21 à 27 degrés. Nous gagnons 2 degrés par rapport à hier.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde Changer.